Chapitre 10e. Un nouveau drame, un nouveau mystère. Monsieur Defel fut appelé au téléphone comme il commençait à signer son courrier. « Monsieur, lui disait-on, vous avez reçu un rapport détaillé des derniers événements qui viennent de se terminer par l'explosion de la maison de Fontainebleau. »«
Parfaitement.
Vous savez que l'on avait affaire à une bande de malfaiteurs conduits par le fameux bandit le Tatoué.
C'est exact.
Ces gens sont ou arrêtés ou morts.
Vous savez qu'on a au dépôt un de ces bandits qui ressemble à votre ancien garçon de recette.
Éloi Vidal, j'ai su cela.
Donc, vous avez cette preuve que ce malheureux Éloi Vidal a été lui aussi victime de ces bandits.
C'est ma conviction.
Éloi Vidal a eu un moment de faiblesse pour les beaux yeux noirs d'une chanteuse de café-concert, Gabrielle de Bellerie, que Martin Numa vient de faire arrêter à Calais, au moment où, avec sa famille, elle prenait le bateau.
Ah, tant mieux.
Éloi Vidal, attiré dans un guet-apens, a été assommé, dépouillé de son argent.
Je m'en doutais.
Les bandits l'ont emporté jusqu'à la frontière et l'ont abandonné.
Les misérables.
Éloi Vidal, honteux, croyant son passé déshonoré, sa vie perdue, a essayé de se cacher et de refaire son existence.
Il est portefait au quai de la Meuse.
Ah, le malheureux.
Mais si vous savez où il est, dites-lui de revenir.
Bien.
Mais Éloi Vidal veut avoir la certitude que ses chefs croient à son innocence.
Je m'en porte garant.
Parfait.
Alors je le laisse vous remercier lui-même.
Il est à côté de moi, qui écoute et qui pleure.
Éloi Vidal se pencha sur l'appareil et d'une voix coupée par les sanglots, il dit
« Ah, monsieur Defel, comment vous remercier? Comment témoigner à mes chefs, à mes amis, ma reconnaissance de ne pas avoir douté de mon honnêteté ?»«
Éloi Vidal, dit monsieur Defel, vous êtes la victime de ces bandits. Je veux être ce premier, moi, votre chef, à vous serrer la main. Revenez prendre votre place parmi nous. »
« Oui, oui, merci. »
Monsieur Defel demanda.
« Mais qui donc, avant vous, me parlait ?»«
Qui ? C'est mon sauveur ?
C'est Martin Numa ?»«
Martin Numa, lui, il est donc vivant. »«
Eh bien vivant.
C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a retrouvé. C'est lui qui me ramène et va me rendre enfin au mien, à mon travail.
Martin Numa, mon sauveur. »
Le retour de Martin Numa fut un événement non seulement parisien, mais mondial. Je fus le premier à l'annoncer. Cela causa presque une émeute sur le boulevard. Les camelots hurlaient.
« La résurrection de Martin Numa, retour du roi des détectives !»
On s'arrachait les feuilles. Martin Numa se doutait depuis sa première visite que la maison du commandant Raymondin était minée. Quand il vit le Tatoué s'engouffrer par la trappe et disparaître, il pensa que le commandant ne serait pas délivré de ses chaînes par ses amis, qui avaient dû fuir. Alors, Martin Numa, ayant vu disparaître le Tatoué par la trappe, comprit que dans cette pièce, il n'avait plus rien à faire. Il sauta vers la cheminée, il retrouva le bouton qui ouvrait la plaque du fond, et il s'engouffra dans cette baie, profitant de cette issue un peu avant le moment où l'explosion avait lieu. Sur le quai de la gare, une foule énorme attendait Martin Numa qui ramenait Éloi Vidal. La femme, la fille du malheureux garçon de recette, ses camarades du Crédit Bordelais, étaient là. Inutile de songer à dépeindre la joie de tous ces braves gens. On chercha Martin Numa pour lui faire une ovation. Martin Numa se trouvait déjà dans une voiture avec Prosper, et nous roulions vers chez nous pendant que la foule applaudissait et criait
« Vive Martin Numa, le roi des détectives !»
Alors, se tournant vers moi, Martin Numa me dit
« Maintenant, mon cher Courville, nous allons nous occuper de la bande des X. »
La bande des X.
Oui,
une nouvelle compagnie qui m'a l'air déjà de dépasser de beaucoup la bande du Tatoué.
Composée des dissidents?
Je ne le crois pas. Je pense plutôt que nous allons avoir affaire à une société de terribles bandits, admirablement organisée, qui commet ses exploits sous le signe des X, les X. J'ai déjà dû m'occuper de ces X mystérieux, mais cette fois ils viennent de commettre un crime effroyable et je dois leur donner la chasse.
Espérons que ces X auront le sort de la bande du commandant.
Ce sera bien plus dur.
« Bon, vous aurez la peau d'X comme vous avez eu la peau du Tatoué.
On verra.
Marchons. »
Martin Numa m'emmena dans le bureau de M. Ramard qui l'attendait. En m'apercevant, le chef de la sûreté se mit à rire en me tendant la main.
« Toujours le premier, Courville, toujours du flair. »«
Vous voulez bien que je vous accompagne ?»«
Comment donc ?
Martin Numa n'arrêterait pas les coupables si vous n'étiez pas là. »
J'ai pris place dans la voiture de Martin Numa qui, durant le trajet, ne souffla mot et regarda obstinément par la portière.
Nous arrivâmes rue Lepelletier, devant l'hôtel du richissime banquier Jean Castanier. Le chef de la sûreté et son secrétaire pénétrèrent par la grande porte entrouverte. Nous les suivions, Martin Numa, Prosper, Philippe et moi. « Ces messieurs sont là, » dit l'huissier, de ce ton désolé de convention que prennent les serviteurs dans les deuils des maîtres. Dans l'immense demeure régnait ce silence lourd que coupent les bruits de pas étouffés, les fragments de conversation à voix basse qui semblent spéciales aux maisons où il y a un mort ou le malheur a frappé. Nous entrâmes dans une pièce qui se trouvait entre les bureaux de la banque et le cabinet du banquier. C'est là que M. Jean Castanier faisait attendre les personnes auxquelles il donnait audience. Déjà s'y trouvaient M. de Capestin, le juge d'instruction chargé de l'affaire, son secrétaire et quatre autres personnes tenant à la magistrature. Après les salutations, les présentations traditionnelles, les serments de main habituels, le chef de la sûreté mit les magistrats au courant des premières constatations judiciaires opérées par ses soins. « D'ailleurs, dit-il, rien de plus simple en fait, de plus banal en apparence que ce drame, mais aussi rien de plus mystérieux, de plus énigmatique. On a trouvé hier soir, à la fermeture des bureaux, le banquier Jean Castanier mort dans son fauteuil, sans apparence de blessure, et sur un canapé, en face de lui, sa fille aînée, Mademoiselle Irma, morte également, mais portant, elle, au cou, des marques évidentes de strangulation. Dans le bureau, rien ne semble avoir été dérangé. Le coffre-fort, où M. Castanier renfermait ses valeurs, paraît n'avoir pas été fracturé ou forcé. Il est resté intact, mais il est encore fermé. Et nous ne savons pas s'il y a eu vol. Voilà, messieurs, le problème. J'ajoute, circonstance doublement douloureuse, que Mademoiselle Castanier, dont la réputation de beauté et de grâce est grande à Paris, était fiancée et devait sous peu se marier avec le marquis Primo di Carmine Santucci, une des plus illustres familles de la Sicile. Un silence profond suivit ces paroles. Martin Numa, que je ne quittais pas du regard pendant cette exposition, tenait les yeux obstinément fixés sur la pointe de son soulier. Il ne bougeait pas plus que s'il eût été soudain changé en statue de bronze. Le juge d'instruction demanda « Qui a découvert ce drame ?»« Mademoiselle Jeanne Castanier, la fille cadette du banquier. Comment cela ? Inquiète de l'absence de sa sœur, qu'elle savait n'être pas sortie, Mademoiselle Jeanne la chercha par toute la maison. Ne la trouvant pas, elle eut l'idée de venir voir chez son père. Le bureau du banquier communique directement avec les appartements de la famille. Mademoiselle Jeanne trouva sa sœur et son père comme Joël l'a dit. Effrayée, elle donna l'alarme. « Bien, » fit le juge d'instruction. « Nous entreprendrons tout à l'heure les interrogatoires. Passons dans le cabinet de M. Castanier. Commençons par visiter le théâtre du crime. » Alors seulement, Martin Numa remua. Il quitta sa chaise et se dirigea vers le bureau. Dans le bureau de M. Castanier, le chef de la sûreté donna encore quelques détails, indiqua les positions qu'avaient les cadavres quand on les releva. Martin Numa suivait toutes les explications avec la plus grande attention. Tous les regards se tournèrent alors vers lui. Pour lui demander la clé de cette énigme angoissante, chacun le croyant à même de dire immédiatement ce qui s'était passé, de soulever le voile, de deviner, de révéler le mot de ce mystère. Je vis dans les yeux gris acier de mon ami passer alors un éclair. De même qu'un bon chien amené sur le terrain de chasse et qu'on découple tout à coup, il bondit. Maintenant, il prenait le premier rôle. On le suivait. Il s'élançait vers l'accomplissement de cette mission, à ses yeux sacrés, de porter la lumière devant la justice et de traîner le coupable au pied du tribunal. Rien ne devait plus l'arrêter dans l'accomplissement de sa tâche. Il jeta dans la pièce un large coup d'œil circulaire comme un général avant l'attaque embrasse ce qui sera le champ de bataille. Avisant devant la cheminée quelques carrés de papier, il les ramassa avec soin. « Bout de carte de visite ? » fit-il. « Non, bon à conserver. » Il les glissa dans un vaste portefeuille. Il prit ensuite la lampe électrique du bureau de M. Castanier, s'approcha du coffre-fort, l'éclaira et examina minutieusement, en s'aidant d'une forte loupe, les alentours de la serrure, puis les rainures de la porte. « Bon, » fit-il au bout d'un moment, « voilà un point délucidé. Il n'y a pas eu effraction, ni ouverture brusque. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu vol. L'extérieur, rien qui nous concerne. Pour l'intérieur, on nous renseignera plus tard. » Martin Numa s'éloigna de deux pas du bureau, comme font les peintres pour juger mieux de l'effet de leur tableau. « Le bureau, » dit-il, « a été dérangé. Il est de travers. » Il se baissa et examina les pieds du bureau. « Dérangé tout récemment, » dit-il. « Le bureau est très lourd. Les pieds marquent fortement sur le tapis. Car si un seul n'a pas bougé de sa marque, les trois ont fait un sillon. On a poussé brusquement le bureau de droite à gauche, par conséquent avec le pied gauche. « Peut-être, » dit le juge d'instruction, « est-ce en enlevant le corps de Mademoiselle Castanier ?»« Voyons, » fit Martin Numa. « Nous allons nous en rendre compte immédiatement. » Il fit signe à un de ses hommes et dit au chef de la sûreté « Voulez-vous faire prendre à l'agent la position qu'avait le cadavre de la jeune fille ?» Une fois l'agent placé comme l'était le corps de la victime, Martin Numa vint à lui, le souleva, se fit aider par un agent puis par deux autres. « Non, » dit-il, « nous sommes quatre qui pouvons manœuvrer entre le canapé et le bureau sans heurter le bureau. Ce n'est pas en relevant le corps qu'on a dérangé ce meuble pesant. » Il fit reprendre à l'agent la position de la victime. Cette fois, il lui saisit le cou comme pour l'étrangler. Pour cela, il dut se pencher. En se penchant, sa jambe s'allongea et son pied gauche toucha le pied du bureau. « Voilà, » dit-il, « comment l'assassin s'y est pris pour accomplir son forfait. Celui qui, dans sa précipitation, ou au cours de la lutte, a glissé sur le tapis et a poussé le bureau. L'écart du canapé au bureau est d'1,20 m environ. L'assassin doit avoir une taille entre 1,60 m et 1,72 m. Plus petit, il n'aurait pu tenir ici le cou de la victime et toucher le pied de la table. » De nouveau, il se baissa et chercha à terre. Avec son inséparable loupe, il examina le pied du bureau et tout à coup il poussa un cri. « Je ne me trompais pas, » fit-il en se relevant. « C'est bien ce pied qui a été heurté. » Alors il prit dans le casier une feuille de papier et étala dessus quelques rognures noires. « Le pied du bureau, » dit-il, « se termine par un motif en bronze ciselé. Mais ce motif s'est vengé de la violence qui lui fut faite et nous livre un premier indice. Le meurtrier portait des bottines vernies. Voilà des copeaux raclés et enlevés de la chaussure. » On se pencha sur ces débris. « C'est, » poursuivit Martin Numa, « autant qu'on peut le discerner dans une si petite quantité, du vernis très fin. Il ne casse pas comme le vernis ordinaire, il plie. C'est pour cela qu'il est venu en copeaux. L'assassin portait des bottines de luxe, de soirée. » Le chef de la sûreté dit alors, « Messieurs, cette découverte est très importante. Elle fait honneur à la merveilleuse sagacité de Martin Numa. Je vous prie de garder le secret le plus absolu sur ce point. » « C'est un point de départ seulement, » fit observer Martin Numa. Déjà, il s'était mis en quête. Il fit le tour du bureau et vint s'asseoir dans le propre fauteuil de M. Castagnier, comme l'eût fait le banquier lui-même. Il examina attentivement le grand buvard qui s'étalait sur le sous-main. Puis il passa en revue minutieusement les divers objets, porte-plumes, crayons, grattoirs, qui se trouvaient sur le bureau, et tout en maniant ces divers objets, il faisait entendre une sorte de grognement que je savais être du meilleur augure. « Messieurs, » dit-il enfin, « M. Castagnier a pleuré. »« Pleuré ? » fit-on avec surprise. « Abondamment pleuré. » »« Car son bureau porte la trace de larmes nombreuses. M. Castagnier a dû se prendre la tête dans les mains et pleurer longuement. » Puis il passa sa main gauche sur les yeux et la posa, ensuite toute mouillée. « Ici, voilà la trace de ses doigts humides. » Pendant qu'on regardait ce qu'il montrait, qu'on en vérifiait l'exactitude, Martin Numa poursuivit. Et tout en pleurant ainsi, M. Castagnier essaya d'écrire, et probablement n'y parvint pas. Il n'acheva pas certainement la lettre qu'il commença. « Comment pouvez-vous savoir cela ? » lui demanda M. de Capestin. « Voyez, » répondit-il, « M. Castagnier, trop nerveux, trop ému, trop tremblant, cassa deux plumes. Il est impossible d'écrire avec une plume cassée. Les voilà. Les autres sont neuves. Donc, elles n'ont pas servi. Par conséquent, la lettre n'est pas finie. » Il ajouta, « Je gage que nous allons la trouver dans le panier au papier, sous le bureau. » Martin Numa tira le panier et, sans bouleverser ce qu'il contenait, délicatement, il saisit une feuille, roulée en boule, qui se trouvait au-dessus des autres papiers. Avec des précautions infinies, il la prit et la mit sur le bureau, devant lui. « Voici la lettre, » fit Martin Numa. Il la défit doucement, l'étala sur le bureau et montrant du doigt, « Tenez, » dit-il au juge d'instruction et au chef de la sûreté, « voici l'endroit où la première plume s'est cassée. Voici le point où la seconde fut brisée. » Découragé, M. Castagnier jeta la lettre, pensant en faire une autre. La mort ne lui en donna pas le temps. « Voyez encore, cette missive porte aussi de nombreuses traces de larmes. » « Lisez-nous ce qu'elle contient, » dit le juge d'instruction. Martin Numa lut à haute voix. « Monsieur, vous êtes venu réveiller un passé tragique que je pouvais croire à jamais éteint. C'est au moment où le bonheur va remplir ma maison. Je vais marier ma fille. Que vous voulez révéler à tous ce que vous appelez mon crime. Je proteste. » Martin Numa s'arrêta. « Ici, messieurs, le papier est troué. La plume a été cassée. » Il reprit. « Je proteste. Cependant, pour éviter un scandale, pour l'honneur de mes enfants, pour mon repos, je consens. » Une seconde fois, Martin Numa s'arrêta. La deuxième plume s'est cassée ici. Le banquier, trop énervé, trop ému, n'a pu continuer. Il a froissé le papier, l'a jeté dans la corbeille. Il s'est pris la tête dans les mains et il a pleuré. C'est alors que la mort l'a surpris. « Que s'est-il passé ensuite ? » fit M. de Capestin. « Comment Mademoiselle Castanier a-t-elle été assassinée ici ? Par qui ? Pourquoi ? C'est ce que nous aurons à éclaircir, et ce ne sera pas commode. » Mais Martin Numa poussa tout à coup un cri. « Attendez » fit-il. « Après le pied, la main. » Il prit sur le bureau, du côté du canapé tragique, un bloc-notes formant mémorandum sur lequel le banquier inscrivait ce qu'il voulait avoir présent à la mémoire au cours de la journée. Ce mémorandum était renversé, défait comme écrasé. « Voyez, messieurs, l'assassin ayant glissé, comme nous l'avons établi, a eu besoin, son crime accompli, pour se relever, de prendre un point d'appui sur le bureau. Sa main a rencontré ce mémorandum. Elle a pesé sur cette feuille lourdement, et à deux reprises, elle a laissé l'empreinte du pouce. Messieurs, c'est comme si nous avions la signature du misérable. » Il éleva le bloc-notes, le mit bien en lumière sous la lampe électrique, le montra au magistrat. « Peut-être, objecta quelqu'un, est-ce le pouce du banquier qui, en consultant son mémorandum, y a laissé la trace de son doigt ?»« C'est une hypothèse logique, en effet, » répondit Martin Numa, « mais inadmissible ici. Nous pourrons d'ailleurs très facilement nous en assurer tout à l'heure. Voyez, cette empreinte dénote un pouce très fort, un pouce de criminel. » Au pli de la peau très accusée, très dure, comme ceux des mains qui travaillent. Je gage que le pouce du banquier n'a pas cette rugosité, ni cette largeur. Nous vérifierons, dit le juge d'instruction. C'est de la plus haute importance, appuya Martin Numa, car si le pouce est celui de M. Castanier, c'est lui qui a étranglé sa fille. Un murmure d'horreur et d'incrédulité accueillit ces paroles. On protestait contre une pareille supposition. Or, je tiens pour certain que ce pouce est celui de l'assassin. Il est marqué ici en rouge par du sang, et la seconde empreinte est comme auréolée par une tache grasse. Qu'est-ce qui a pu produire cela ? L'assassin a dû, dans sa pression, écorcher la peau délicate de la jeune fille, la faire saigner. Mademoiselle Castanier devait probablement avoir enduit son cou d'une légère couche d'un onguent de toilette, glycérolé ou blanc-gras, crème de beauté quelconque. Nous vérifierons ce point également. Si nous retrouvons trace du sang et du cosmétique à la main de M. Castanier, notre enquête sera terminée. Mais je suis certain qu'au doigt du banquier, nous ne trouvons peut-être que des éclaboussures d'encre produites par les plumes en se brisant. Nous aurons à chercher ailleurs l'assassin. Car bien que dans sa lettre suprême, le banquier parle de crime, je ne crois pas que ce soit lui qui ait tué sa fille. À mon avis, il était mort dans son fauteuil quand sa fille entra dans son bureau, et le crime s'est accompli à côté de son cadavre. C'est notre avis également, firent les magistrats. Pendant que le chef de la sûreté et les magistrats discutaient entre eux, Martin Numa s'était de nouveau assis dans le fauteuil du banquier. Approchant la lampe électrique, il plaça entre elle et lui la feuille du bloc-notes et se mit à l'étudier par transparence, avec cette minutie, cette conscience qu'il apportait dans ses enquêtes. « Si je vous disais, s'écria-t-il enfin, que maintenant nous avons non seulement le pied et la main du criminel, mais aussi son nom !» Il eut un cri d'étonnement. On se pencha sur Martin Numa. Lui souriait avec, dans les yeux, une flamme de contentement. Il poursuivit, tenant toujours le papier devant la lumière. « Vous savez, n'est-ce pas, et M. Bertillon l'a définitivement établi, que de même que dans la nature on ne trouve pas deux feuilles d'arbre identiques, il n'existe pas par le monde deux doigts absolument semblables. Chaque doigt, occupons-nous uniquement du pouce, chaque pouce, présente non seulement son volume spécial, sa forme caractéristique, mais aussi ses plis uniques, personnels. Or, on a constaté que ces plis rappellent plus ou moins les lettres de l'alphabet. Quelques pouces renferment même un mot. Dans ma collection, j'ai quelques pouces qui vont jusqu'à dire le nom de leur possesseur. » Tout autre, disant cela, eût passé pour un hâbleur, un fumiste. Mais Martin Numa ne plaisantait jamais. Il avait un profond respect de sa profession, dont il déclarait le caractère sacré, et surtout, en ce moment, dans cette pièce, où avec le crime, le deuil et les larmes étaient entrés, il ne se serait jamais permis la plus petite facétie. Si étrange, si invraisemblable que parut au premier abord sa déclaration, on le crut sur parole. M. de Capestin lui demanda donc avec une conviction absolue, « Dans ce pouce, vous lisez quelques lettres. » « Oui, à première vue, mais j'ai besoin de l'étudier encore plus longuement, à loisir. » Avec ces quelques signes, ces lettres, il vous sera possible d'établir un mot, de trouver le nom du coupable ? tout au moins le nom qu'il porte dans son pouce, le nom que lui imprimait Dieu, et qui est plus à lui que le nom que lui donnèrent ses parents. Très juste. Le nom de son état civil, il peut le changer, le cacher, le modifier, celui-là, impossible. Il fait partie de lui-même, de son être, de son corps. Il ne peut le perdre qu'en se coupant le pouce. Mais déjà, Martin Numa avait soigneusement plié dans son énorme portefeuille cette feuille du bloc-notes qu'il demanda au magistrat l'autorisation d'emporter pour complément d'études. « Je crois, dit le chef de la sûreté, que nous n'avons plus rien à faire ici pour le moment. Rendons-nous auprès des défunts. »